L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. L'heure de pointe, c'est une émission proposée chaque semaine en partenariat avec le journal La Dépêche Nouvelle République et aux commandes à mes côtés cette semaine, Andy Barégeau. Bonjour Andy.
Bonsoir Anne-Rose.
Andy, les invités que nous recevons pour cette première émission, vous les connaissez bien puisque l'aventure qu'ils vont nous raconter, vous l'avez vécue avec eux. C'est l'équipe de Ensemble au Sommet, une partie de l'équipe, une petite partie de l'équipe même en tout cas, Michaël Genet et Johan Bellandi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonsoir.
Vous venez d'accomplir un exploit. Vous rentrez tout juste du sommet du Kilimandjaro en Tanzanie, 5895 mètres d'altitude, 6 jours de marche. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas les seuls à accomplir cet exploit, mais en tous les cas, vous êtes les seuls à être partis, les premiers en tous les cas à être partis avec un tel équipage, puisque dans l'équipe des 17 aventuriers, eh bien, il y avait 3 personnes en situation de handicap. Donc, vous allez nous raconter toute cette aventure. Peut-être pour commencer, Andy, puisque vous les connaissez bien, nos invités, et vous connaissez toute l'équipe. Peut-être que vous pouvez nous présenter d'abord nos deux invités, puis le reste de l'équipage.
Alors le reste de l'équipage, ça fait beaucoup de monde, parce qu'on était quand même 17, mais c'est vrai que vous avez bien résumé à Anne-Rose. Donc il y avait le cœur quand même de l'expédition, c'était 3 jeunes en situation de handicap, 3 jeunes sportifs, c'est important parce que ça jouait quand même dans le fait qu'ils soient arrivés là-haut. 3 jeunes sportifs, donc il y avait Gilda Frémiouti qui elle a 15 ans, Clément Talbot qui a 15 ans aussi, et Tom Varven qui lui a 29 ans, 30 ans, 30, je le rajeunis, 39. Ah pardon,
soyons précis.
Ouais, non, pardon, j'en aime bien rajeunir. Et donc c'est autour de ces 3 personnes-là que s'est organisée l'expédition, et c'est Michael qui en est à l'origine, puisque déjà l'an dernier, il avait œuvré pour la cause du handicap et de l'accessibilité un petit peu de la montagne et de l'univers montagnard qu'on croit parfois plus sélectif aussi qu'il peut être et qui peut être accessible.
Même si vous avez démontré le contraire, c'est un petit peu vrai.
L'idée c'était justement de démontrer le contraire et de montrer qu'on peut les renverser, les montagnes. C'était un peu l'état d'esprit qui a animé Michael l'an dernier, puisque bon, il s'est hissé quand même l'an dernier sur le plus haut sommet d'Amérique du Sud et sur le plus haut sommet du monde, c'est juste ça, donc c'est pas trop mal quand même. Et du coup, il avait envie de réaliser quand même maintenant une entreprise un peu plus collective. Mais c'est lui qui va nous dire maintenant comment ça s'est passé et ce cheminement-là, puisque le cheminement, c'est pas juste marcher, c'est aussi construire, et c'est ce qu'il a fait.
Donc, Michaël, vous avez vraiment construit ce projet autour de ces trois jeunes, hein, puisque Gilda et Clément sont mineurs, et puis Thomas étant quand même jeune. Donc, vous avez vraiment construit ce projet-là pour eux, avec eux. Enfin, ils ont fait partie déjà des préparatifs. Ils ont pensé l'aventure avec vous.
Oui, exactement. En fait, à la fin de la première édition d'Ensemble au Sommet, donc qui avait amené 140 personnes au sommet du Pic du Midi avec une trentaine de sportifs en situation de handicap, c'est vrai que j'avais ressenti une énergie qui m'avait beaucoup touché, parce qu'effectivement, mettre en lumière cette cause à travers mes propres expéditions, c'était déjà un sentiment qui était très sympathique, mais le partager en direct, dans l'effort, avec des bénévoles, j'ai trouvé ça, enfin voilà, ça m'a vraiment touché émotionnellement, et je me suis dit que construire une nouvelle montagne, peut-être pour moi, le Kilimandjaro, ça pouvait être quelque chose de simple après avoir fait l'Everest et la Aconcagua.
Les Hautes-Pyrénées, ça ne vous suffisait pas, parce qu'il y a quand même de quoi faire ici.
Il y a largement de quoi faire, c'est d'ailleurs les Pyrénées qui m'ont donné cet amour de la montagne, mais en soi, je me suis dit quand même que le Kilimandjaro, c'était un sommet qui était suffisamment porteur de sens, qui était suffisamment connu, c'est un symbole quand même, en plus d'un voyage et d'une immense aventure. Et c'est vrai que l'avantage du Kilimandjaro, c'est que c'est une montagne quand même assez, on le verra peut-être un peu plus en profondeur, au final un petit peu plus dur que prévu sur le papier, mais ça a été quand même une aventure qui était possible. En tous les cas, j'ai jamais cessé de croire que c'était possible. Et oui, pour vous répondre, on a sélectionné ce casting de Clément, de Gilda et de Tom. C'était pas un hasard, on a vraiment fait ce projet pour le partager avec des personnes qui, malgré leur handicap, pouvaient rêver, prétendre, voilà, avec ce petit grain de folie qu'il fallait, hein, bon, on va pas se mentir, il fallait un petit peu avoir ça en tête pour aller chercher un dépassement sans aucune garantie de sommet.
On peut savoir quels sont leurs handicaps ?
Bien sûr. Pour les deux premiers qu'on a cités, donc les deux plus jeunes, Gilda est atteinte en fait d'une maladie très très rare. En fait, c'est il lui manque en fait un chromosome qu'on appelle le syndrome Piezo 2. Donc c'est il y a très 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 peu de personnes dans le monde qui sont touchées par ça. C'est une maladie qui est reconnue à la naissance, qui est très jeune. On va dire c'est une maladie qu'on a pas trop, enfin, qu'on a ignoré pendant très longtemps, on commence un petit peu à avoir des symptômes et la preuve en est, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, elle n'avait jamais mis le pied par terre et on a appris que le sport pouvait améliorer sa condition.
Et pour donner, donc elle a commencé à faire du sport il y a 2 ans et là, elle a gravi le Kilimandjaro.
Et elle a gravi le Kilimandjaro, alors pas en autonomie évidemment, mais chaque jour de sa vie aujourd'hui, le sport peut améliorer sa condition, on ne sait pas jusqu'à où, c'est un petit peu ça aussi le mystère, mais le côté positif dans sa maladie à elle, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Gilda a été une athlète toute trouvée pour ce genre d'aventure parce qu'elle est débordante d'énergie, elle se rend compte que effort après effort, elle progresse et que le sport finalement lui donne l'espoir d'un jour peut-être retrouver de plus en plus de mobilité, alors que depuis toute petite, on lui répète peut-être qu'elle n'est pas capable d'eux ou qu'elle ne pourra jamais faire quelque chose. Donc ça, c'est un beau message déjà. Et c'est vrai que Gilda, pour nous dans le groupe, ça a été un moteur essentiel de cette aventure.
Ça se voit sur les vidéos que vous avez postées sur les réseaux sociaux. C'est elle vraiment le moteur de votre aventure quand même.
Oui, en soi sur les réseaux on l'a montré parce que c'est vrai que c'est celle qui a aussi, on peut le dire, je pense assez facilement, qui a généré le plus d'efforts logistiques, qui demandait en tous les cas une attention particulière parce que sa mobilité était limite. Donc on pouvait pas imaginer ça, alors que la performance de Clément et de Tom était complètement différente puisque ils ont fait vraiment toute autonomie. Donc aujourd'hui c'est ça aussi l'exploit. Donc c'est pour ça que je minimise pas un effort plus qu'un autre parce qu'on voulait justement avoir un panel, Clément donc Talbot qui a 15 ans, que je fréquente depuis quelques années maintenant, c'est également une prouesse de la nature. On a un jeune garçon qui, j'ai envie de le dire tout de suite, qui est hémiplégique, donc il n'a pas totale liberté de ses mouvements et de sa force aujourd'hui sur un côté complet de son corps, et c'est absolument extraordinaire ce qu'il a réalisé.
Il a réussi à marcher, il a réussi à avancer
en autonomie totale, sans aucune aide, sans rien. Il est monté à la force de sa détermination en donnant tout ce qu'il avait. C'est dire la capacité qu'il a eu de se dépasser. C'est exactement ce qu'on a recherché, c'est ce qu'on a voulu partager avec lui. Et il a été largement au rendez-vous. Je pense qu'on personne lui en aurait voulu s'il aurait décidé de faire demi-tour à 4000, 5000 mètres, peu importe. Il a été vraiment incroyable. Maintenant, il a été jusqu'au bout. Et au-delà de la performance, parce que c'est une performance même pour invalide d'arriver au sommet du Kilimandjaro, même avec ses deux pieds et ses deux mains, le faire quand on est en plus en situation de handicap, ça donne un message qui est très fort. Et donc ça, c'est un handicap qu'il partage avec donc notre troisième personne en situation de handicap, qui est donc Thomas Varven, Tom. Pareil, un ami de très très longue date, qui a toujours pratiqué depuis mes plus lointains souvenirs une activité sportive. Je crois que c'est un petit peu le point commun des trois. Le sport est un petit moment où c'est qu'ils s'oublient, ils oublient leur handicap, ils se sentent valides, ils se sentent comme quelqu'un qui va courir et qui a ce besoin de fraîcheur, un petit peu de dépassement. Et Tom incarne ça aussi très bien, malgré le fait qu'il soit un tout petit peu plus âgé que les autres. Il incarne aussi cette génération d'athlètes handy, puisque c'est quelqu'un qui fait de nombreuses compétitions, notamment dans le triathlon, dans la course à pied. C'est assez surprenant à voir pour les gens qui le croisent à Tarbes. Il s'entraîne tous les jours. Quelqu'un qui va jamais se plaindre et qui va toujours avancer. Et c'est magnifique de les voir tous les trois et je suis très fier qu'aujourd'hui on ait réussi à les réunir autour de nous.
On comprend, il y a de quoi. Voilà. Alors le reste de l'équipage, du coup, par exemple votre copain à côté, Johan, pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous êtes embarqué dans cette aventure?
Ça a commencé l'année dernière quand j'ai suivi Mika pour la première ascension là, de la Aconcagua à l'Everest. On a suivi pratiquement tout le cheminement. Puis on est arrivé, comme disait Mika tout à l'heure, au pic du midi avec. On était pratiquement 150, si je dis pas de bêtises. Et ça m'a donné envie d'aider, en fait. C'était une très belle journée où on a pu partager des moments entre, on va dire, valides et invalides, bien que ce soit de grands mots. Et à la fin du film, Mika a annoncé, en fait, le Ensemble au Sommet 2. Et je me suis dit, peut-être que j'avais un rôle à jouer, venir aider. Et gravir le Kilimandjaro, mais pas juste pour moi. Venir aider et donner peut-être de la joie à des personnes qui, sans nous, n'auraient peut-être pas pu le faire.
Oui, parce que c'est pas juste un défi sportif derrière, c'est un défi humanitaire, solidaire.
Solidaire, principalement, oui. Inclusif aussi.
Humain.
Humain, énormément. C'était vraiment le fait de les avoir avec nous, c'est un énorme moteur. Ça nous a tous motivés. On était tous unis autour d'une même cause. Mmh. Le but était de les amener en haut du Kilimanjaro, qui est pas un petit sommet, qui est le plus haut sommet de l'Afrique. Et
ça fait combien de mètres de dénivelé ce Kilimanjaro là, pour aller jusqu'en haut?
5895 mètres d'altitude. On démarre à 1800 mètres et on arrive du coup à 5008.
Un peu plus de 4000.
Ouais. Voilà.
Un peu plus de 4000.
En 5 jours, oui. Par la voie Marangou, du coup. S'il y a plusieurs voies pour y accéder.
Alors, il faut donner des explications parce que à moi, ça ne me dit rien et peut-être qu'à nos auditeurs, ça ne dit pas grand-chose non plus.
Il y a plusieurs voies pour accéder au sommet du Kilimanjaro, donc plus ou moins difficile, avec certaines fois quelques routes pédestres, on va dire, et d'autres qui vont être plutôt à gravir différemment. Nous, on avait la chance de dormir dans des gîtes. Sur certaines autres voies, on dort dans des tentes.
Des gîtes, des refuges.
Pardon, ouais. Oui, pardon. Des refuges, oui, mais on était quand même très, très bien dedans. Et c'est une voie qui est, on va dire, entre guillemets, plus simple, parce que l'ascension finale est commune à tous.
Ouais.
Donc la dernière journée qui est un peu... La journée qui n'est pas une journée, c'est une nuit de l'enfer où il fait très froid. Mais
moins 15, c'est ça, c'est
voilà, la nuit où on a été. Mais on a eu de la chance, on n'avait pas de vent. Donc ça aide énormément et des conditions météo qui étaient quand même exceptionnelles pour nous.
Alors c'est quoi le plus difficile dans ce genre d'aventure? C'est ça, c'est le froid, c'est la marche tout simplement, ou c'est le côté logistique, puisque vous l'avez dit Michael, il faut, enfin en tous les cas, au moins pour Gilda, il fallait du matériel et un équipement quand même assez conséquent. C'est quoi la plus grande difficulté quand on est dans ce genre d'aventure?
Je crois que pour répondre de façon la plus courte possible...
Oh bah vous pouvez y aller, hein. Moi j'ai le temps. Hein.
Non, mais je vais quand même faire abstraction de différents points, mais je pense que c'est ce qui fait de la magie d'une telle expédition. À partir du moment où c'est qu'on part sur un sommet, où c'est qu'on sait qu'on va passer plusieurs jours à s'acclimater, à vivre en communauté avec nos porteurs, nos cuisiniers, là déjà on parle forcément d'une logistique importante. Donc cette logistique, elle est aujourd'hui imposée par les réglementations de la plupart des sommets aux quatre coins du monde, pas seulement au Népal, mais en Amérique du Sud pour la Aconcagua et tous les sommets qu'on va retrouver, notamment en Bolivie ou au Pérou. Ça va être la même chose, bien évidemment, en Afrique, puisqu'au Kilimanjaro, on a été soumis à une réglementation qui nous a obligés à être suivis et accompagnés par une équipe de porteurs locaux. Mmh. Et donc ça, c'est déjà une logistique qui est à la fois obligatoire, mais qui est nécessaire, parce que c'est des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent l'environnement. Et donc l'environnement du Kilimanjaro, tout comme la haute montagne, qu'on peut connaître même chez nous, même si c'est pas très haut.
Ça suffit pas d'être bon montagnard.
Non,
quoi.
Pas du tout. Aujourd'hui, les phénomènes qu'on va avoir liés à l'altitude font aujourd'hui, même du plus grand athlète au monde, il n'aura aucune certitude face à la montagne, ne serait-ce que par sa condition face à l'altitude, mais aussi face aux éléments.
Il y a un peu une leçon d'humilité aussi derrière.
Complètement. Mmh. Et c'est là que je pense que c'est très important de souligner aux auditeurs, notamment qui connaissent ou qui sont passionnés de montagne, qu'aujourd'hui la montagne, peu importe son niveau, elle ne s'offre pas tous les jours de la même façon, et c'est ce qui est magique en montagne. On attaque un sommet et on sait très bien qu'en un quart d'heure, les conditions météorologiques ou un tas de choses peuvent faire passer du rêve au cauchemar. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai voulu partager avec mes compatriotes bénévoles, c'est-à-dire qu'on est parti et malgré le fait qu'on s'est préparé pendant 10 mois et qu'on méritait tous sans doute d'aller au sommet, rien n'était garanti. D'ailleurs, moi j'ai parlé quand on est arrivé là-bas sur l'un des briefings d'un momentum. Le momentum, il est là, on le sent, il est palpable, on est tous là, on a tous énormément travaillé et œuvré pour être présents et pour pouvoir peut-être y prétendre. Et déjà pouvoir y prétendre, c'était déjà pour moi le premier sommet de cette aventure. C'est-à-dire de dire, on est là, ça y est, on est arrivé, on est en Tanzanie, on a nos permis d'ascension, on a notre équipement, notre fauteuil, les roues sont gonflées, ça y est, c'est parti. Maintenant, on va rentrer dans la phase inconnue. La phase inconnue, c'est quoi? C'est de dire aux gens, aujourd'hui, on va avancer pas après pas, ensemble. On va essayer de perdre personne sur le chemin, mais la loi de la montagne fait que peut-être on va perdre des gens sur la route. On est 17, on a une équipe de porteurs incroyable autour de nous. Ça a été premier élément qu'on mesurait pas. Ça, il y a eu une espèce de symbiose qui s'est faite d'entrée, hein, dès l'arrivée. Je crois qu'on peut dire que
vous étiez quand même un groupe un peu atypique. Ah, vous n'avez jamais vu un équipage comme ça.
Je crois que eux aussi ont trouvé du sens là-dedans.
Oui, c'est ça.
Nous, il y avait beaucoup de sens dans cette entreprise parce qu'elle était sur de longs mois, mais eux, instantanément, en fait, ils se sont vite imprégnés de ce qui nous animait à nous. En fait, ça s'est vu. Les porteurs, les guides, ils étaient ultra mobilisés pour justement partager la cause qui nous animait. Quoi.
C'est vrai. C'est d'ailleurs, je pense, un des premiers moments forts qu'on a partagé tous ensemble. Moi, ça me redonne les frissons, ce moment où c'est qu'ils se sont mis à chanter alors qu'on ne se connaissait pas. On arrive sur le parking, prêt à partir dans notre bus, et on s'est retrouvé avec une quarantaine de Tanzaniens qui se sont mis à chanter pour nous et à venir faire une espèce de cérémonial qui nous a fraternisé d'un coup en fait finalement. Et je pense que la montagne, c'est encore une
ils
fois
ils avaient vraiment envie que vous y arriviez quoi.
Ils avaient mesuré, je pense que déjà il y avait un énorme travail d'équipe qui avait été fait, et je pense qu'ils sont pas habitués à ça. Bien évidemment, il y a beaucoup d'expéditions commerciales avec des petits groupes de 2, 4, 5, mais là une équipe de 17 personnes qui viennent pour défendre une telle cause avec des enfants, enfin je veux dire, il y avait quand même beaucoup de vecteurs qui allaient dans notre sens. Et puis pour finir sur l'aspect logistique, effectivement, voilà, je pense que nous on était prêts de ce côté-là. Maintenant, moi je veux vraiment insister toujours sur le fait que l'histoire est toujours belle à raconter une fois qu'on est revenu. Mais sur le moment, pour Andy, pour Yo, pour moi et pour tout le reste de l'équipe, ce qui s'est passé ce soir-là quand on est parti à l'assaut du sommet, on sait très bien que quand on s'est tous regardé au sommet, qu'on a vu que finalement on avait tous réussi à atteindre le sommet quasiment, mais on s'est regardé, on s'est dit, moi on est sur le domaine du miracle. Et c'était ça qui était beau. Le message, il était que finalement rien n'était gagné d'avance, et on a ressenti comme une récompense parce que quelques jours avant, la météo était pas bonne. Dès qu'on est redescendu, la météo n'était plus bonne. Et ce jour-là, on a eu droit à une nuit incroyable. Même si ça a été rude parce qu'il faisait très froid, mais je pense que c'est normal. À presque 6000 mètres d'altitude, il fait froid la nuit, ça c'est sûr. On n'a pas inventé le chauffage à cette altitude. Mais par contre, voilà, on a eu des conditions, un lever de soleil extraordinaire. Et ça, je pense que ça restera gravé dans notre mémoire.
Qu'est-ce qui aurait pu vous faire flancher au moment de l'ascension ? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a dit à un moment, moi je peux plus, j'arrête quoi. Et les autres ont été obligés de relancer la machine et de remotiver ?
Honnêtement, non, pas spécialement. Ça a été dur pour tout le monde, il fait très froid, on a froid partout. Mais on avait cette motivation-là de dire, il faut absolument qu'on aille au bout. On s'est donné cette mission, on n'était pas seul, Mika en parle très bien, on avait les porteurs qui nous ont beaucoup aidés, et ça nous motivait énormément de savoir déjà qu'on était une famille, parce qu'on était devenu une famille, et il n'y a aucun moment, de moins pour ma part, même si c'était très dur, Andy était avec moi, je pense qu'il se souvient de mon visage dans les derniers mètres avant le premier sommet, c'était très très dur, parce que l'altitude, le manque d'oxygène, les maux de tête, les maux de ventre, le froid, les douleurs aux pieds, les douleurs aux mains. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui aurait pu nous arrêter, je pense. On était tellement soudés et tellement heureux d'être ensemble. Et notre but principal, c'était vraiment d'amener tout le monde au sommet, mais vraiment tout le monde. On a eu le fils Amika qui a eu des petites difficultés en bas et qui est quand même arrivé à 5300 mètres, qui n'est pas rien pour un enfant de 11 ans. Je pense que tous les enfants qui nous écoutent ne peuvent pas dire la même chose. Et c'est déjà exceptionnel d'arriver à 5300 mètres dans un pays qui n'est pas le nôtre, sur un territoire qui est quand même assez hostile, parce qu'il n'y a rien autour. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour boire, il n'y a rien pour manger. Et à part nous, les porteurs qui nous amenaient à manger, mais si vous êtes là tout seul, il n'y a rien qui peut vous sauver. Donc c'est exceptionnel, il faut le souligner, d'être arrivé si haut. Donc pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'Andy va pouvoir prendre le relais, mais je pense qu'il n'y a rien qui pourrait nous arrêter.
Ouais, Andy, vous allez prendre le relais, mais juste après la pause, on marque une petite pause musicale et on revient tout de suite.
Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, 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 voilà. Je me dis que toi aussi. Voilà, voilà. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand sous
sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison, et depuis. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, 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 palala. Je me dis que toi aussi. Palala, 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 palala. Je me dis que toi aussi.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
C'est l'heure de pointe en ce vendredi soir. Merci de retrouver Radio Présence. Nous sommes ce soir en compagnie de l'équipe, d'une partie de l'équipe de Ensemble au Sommet. Michaël Genet et Johan Bellandi sont nos invités et je copilote cette émission avec Andy Barrejo. Alors justement, Andy, c'est à vous la parole puisque Johan vous a proposé de réagir juste avant la pause. Vous avez fait, hein, je le rappelle, vous avez fait partie de cette aventure, vous aussi. Peut-être que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez vécu.
Alors, comment je l'ai vécu ? Moi, ce qui est rigolo, c'est que ça m'a rappelé étonnamment un sport collectif. Enfin, moi, j'ai joué au rugby toute ma vie et c'est vrai qu'il y a deux séquences qui m'ont rappelé ça. C'est avant de se lancer le dernier jour. Donc, c'est le dernier jour, il faut savoir qu'on est arrivé. Donc, on a fait la dernière tranche de marche, on va dire, plus calme, entre guillemets, même si on a pris 1000 mètres de dénivelé l'avant-dernier jour. On arrive à 17h et là, c'est réveil le soir à 22h pour attaquer la dernière montée finale à 23h. Donc, ça fait une nuit très courte à 4800 mètres d'altitude. Et là, il y a un moment, moi, ça m'a rappelé les vestiaires de rugby, en fait, parce que là, on s'est un peu tous regardés. C'est des moments où chaque regard compte un petit peu, où on sent qu'on a un peu les pétoches. Faut pas se mentir. Il y a une appréhension, il y a des doutes, il y a des questions, il y a aussi des réponses qu'on trouve dans les regards des autres et qu'on se dit que ça va le faire, qu'on se convainc de ça, en fait. Et ça, et puis après, dans la dernière montée, où là, vraiment, quand ça devient difficile, parce qu'il faut savoir que quand on passe 5300 mètres, quand on passe 5500 mètres, on a de moins en moins de ressources. Pour nous qui ne sommes pas rompus à ces altitudes-là. Il faut savoir que nos porteurs, par exemple, eux, présentaient un taux de saturation en oxygène qui était à 100%. C'est assez incroyable. Même nous, à Tarbes, on n'arrive pas à voir ça. Et c'est dire, en fait, l'écart et eux, la manière dont ils sont rompus à cette altitude-là, mais que nous, on n'avait pas. Et c'est vrai que ça, on se retrouve écrasé par cette altitude-là. Alors,
assistant vos trois.
Ouais, je pense qu'on aurait déjà été écrasé sans autant aider. Et puis là, on se retrouvait, c'est vrai, à tirer, à pousser, à porter.
Oui, parce que le fauteuil de Gilda, il était conçu pour ça, mais
il n'était pas électrique. Donc, il fallait effectivement le manipuler, le tirer, le pousser, le conduire. Ce qu'a fait l'équipe, une partie de l'équipe, c'est ce en quoi nous ont aidé aussi les guides et les porteurs qui ont fait un travail formidable. Faut pas le minimiser parce que quand c'est devenu vraiment difficile, trop difficile pour nous, parce que nous aussi on s'est heurté à ça, c'est eux qui ont pris le relais. Mais ils l'ont fait avec beaucoup là aussi d'humanité, avec un bon état d'esprit qui est très montagnard en fait. Je crois que c'est vraiment une communauté, les montagnards, et ces gens-là, en fait, on s'est retrouvés en eux. Alors montagnards d'Afrique, montagnards des Pyrénées, qu'importe, en fait, il y a beaucoup d'humilité en fait, et ces gens, ils nous ont laissé œuvrer tant qu'on pouvait le faire. Et au fur et à mesure, ils se sont glissés parmi nous pour nous dire, pour prendre un peu le relais et nous dire qu'ils étaient là et qu'on pouvait compter sur eux. Et heureusement d'ailleurs, parce que
Et ça a marché.
C'est ça.
Quand vous êtes arrivé en haut, c'est quoi le sentiment quand on arrive? On a vu sur les vidéos sur Instagram beaucoup de joie, mais beaucoup d'émotions aussi, Michael.
Alors moi, pour ma part, oui, je peux témoigner, puisque forcément, vous avez vu ces images, vous savez que je suis en larmes, et c'est vrai que c'est peu courant pour moi. Je suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un de très émotif, mais pas quelqu'un qui va montrer en public souvent mes larmes. Mais là, je pense que les larmes et l'émotion m'ont dépassé, parce que, comme je l'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'était quand même beaucoup de facteurs. Il y avait une forme de culot de notre part dans cette aventure, forcément, mais de voir en quelques secondes que finalement le projet avait du sens, parce que même si j'étais leader de ce projet depuis le début, j'ai essayé de penser que ça pourrait qu'avoir une issue positive. Il fallait ça de toute façon pour être motivé pendant ces 10 mois.
Enfin, c'était déjà positif. De toute façon, à partir du moment où vous êtes monté dans l'avion, c'était déjà positif.
Oui. Et ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais au fond de moi, évidemment, le sommet était quand même. Voilà, il y avait quand même une part de moi que j'avouais ou pas. Mais au fond de moi, le sommet était quand même un objectif pas seulement secondaire. Mais en soi, effectivement, quand j'arrive là-haut et que je me retourne, que je vois mes équipiers, que je vois toutes ces personnes avec qui on a créé autant de liens ces 10 derniers mois, et surtout on voit ces Andis qui arrivent et qui eux-mêmes en fait n'y croient pas, ils se disent c'est pas possible. Je vois Clément arriver, je m'en souviens de voir Tom, je vois voir Gilda dans son fauteuil, et là je me dis ça y est, on l'a fait, c'est extraordinaire. Alors toute proportion gardée, avec des grandes émotions dans des grands sportifs, mais ce jour-là j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti, une fierté bien plus grande que sur le toit du monde. On avait partagé, comme le dit Andy, je trouve que c'est la comparaison est très bonne. C'est vraiment une sensation de collectif.
Oui, parce que tout seul, vous auriez été content de vous, mais c'est tout, quoi.
Oui. Et puis c'est un effort qui est vraiment partagé. Je pense que le moindre maillon qui aurait lâché aurait pu nous faire rompre. Et aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a été en haut, et je pense que c'est ce que Johan, Andy et moi, on essaie de traduire avec nos mots à nous, c'est que cette journée-là, qui maintenant restera gravée dans nos mémoires, c'est une journée qui a surtout couronné l'effort collectif. Parce qu'à un moment donné, entre l'équipe tanzanienne et notre équipe à nous, on a fait une symbiose pendant 6 jours, où c'est que, dans l'absolu, il pouvait quasiment rien nous arriver. Comme dit Johan, j'aime pas trop ce mot-là, ça pourrait presque être prétentieux, mais en fait, il y avait une telle énergie entre nous. Je savais que si moi, j'avais plus de bras pendant quelques secondes, quelqu'un a tout de suite été disponible, et puis il y aurait toujours eu quelqu'un disponible. J'ai l'impression qu'on avait toujours quelqu'un qui était là
toujours
pour
de la ressource.
Ah, toujours de la ressource. Franchement, c'est le sentiment que j'ai eu, et j'avais l'impression qu'en fait, contre toute attente, on était en train de casser un truc, un mythe, une impossibilité, une anomalie qui était en train de prouver que finalement, si un groupe d'êtres humains unissent leurs forces pour une cause, pour la cause là de ces 3 personnes, mais qui pour moi, on est sur une cause universelle, ce sont nos égéries, et on est content de les avoir amenés. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça va donner aussi envie à d'autres valides de partager ce genre d'aventure, peut-être plus bas, plus haut, peu importe. Mais nous, aujourd'hui, je pense qu'on a montré une possibilité sur quelque chose d'extrême. Effectivement, c'est un sport extrême, hein, l'haute altitude, ça présente il y a une part d'incertitude, comme je dis tout à l'heure, et ça a été une émotion extrêmement forte pour moi, et beaucoup de fierté, et une fierté qui a été décuplée par l'effort collectif réalisé.
Donc votre message, c'est ça, c'est de dire aux gens allez-y, foncez, vous aussi faites-le, quoi.
Oui, avec une
belle
préparation.
Enfin, avec un peu d'entraînement,
bien sûr, entraînement, une préparation, on a parlé de la logistique et tout ça, c'est absolument nécessaire, mais je pense en tous les cas qu'on a montré que c'était possible, et c'est ça qui est important.
Je voudrais qu'on parle des parents de ces 2 enfants, Gilda et Clément, ils sont mineurs, les parents n'étaient pas avec vous, ça aussi quand même c'est un sacré pari, et c'est certainement une aventure aussi pour eux, je me mets à leur place. Enfin, ils vous ont confié leur enfant handicapé pour faire un truc absolument dingue. Enfin, vous êtes quand même un petit peu fou, quoi. Donc, comment ça s'est passé de ce côté-là, la collaboration avec les parents en amont, et puis pendant, vous avez eu quand même 6 jours, je crois, les 6 jours de marche sans connexion, sans pouvoir donner de nouvelles.
Oui, je crois pouvoir garder la parole pour ça, parce que ça a été un des rôles les plus difficiles pour moi. Ça a été des moments forts aussi avant le départ, parce que forcément, convaincre des parents d'emmener leur petite, un enfant déjà à l'autre bout de, on peut presque dire à l'autre bout de la terre, même s'il y a des destinations plus loin, rien que ça, ça aurait été déjà un défi. Emmener un enfant en situation de handicap, ça, c'était un autre défi. Et emmener un enfant en situation de handicap dans un tel milieu hostile, là, il y avait 3 défis. Donc forcément, il a fallu créer du lien, il a fallu créer de la confiance. Pour certains parents, pour ne pas les citer, des garanties, il fallait qu'on leur dise, on a une assurance, on a des solutions d'évacuation, on a un protocole, des scénarios. Et ça, je pense que c'est ce qu'on leur devait. C'était le minimum pour nous-mêmes qui était tolérable. Donc c'est ce qui a été réalisé avant le départ. Après, les parents, je pense qu'eux-mêmes ont été finalement tous un petit peu différents, mais au final, sur le résultat, ont été surpris. parce que je pense qu'aujourd'hui c'était le scénario le plus beau scénario envisagé, et aujourd'hui je pense qu'ils sont très heureux de récupérer leurs enfants après une telle aventure. Mais il faut pas oublier que on aurait pu aussi pour d'autres raisons renoncer, et c'était le scénario qui était envisagé et accepté par l'ensemble de l'équipe. Et ça, comme je dis à chaque fois, c'est vrai que l'histoire est belle à raconter, elle est belle parce qu'on a atteint le sommet, mais dans tous les cas elle aurait été belle si on aurait dû faire rebrousser chemin par sécurité parce que à 5000 mètres ça passait plus. Est-ce que ça aurait moins valu le coup pour autant? Je ne pense pas.
Oui, vous disiez tout à l'heure, parler de folie, il y avait quand même aussi de la raison dans cette folie-là, et notamment, par exemple, il y avait tout un volet médical.
Oui, c'est ça.
Valérie, qui est infirmière, il y avait Fanny, qui est kiné, donc qui veillait...
Il fallait s'arrêter pour les soins,
qui
parfois.
Veillait, ouais, le cas échéant, on s'est arrêté pour des massages, pour des pour remettre en selle, solliciter des muscles, ou au contraire, les relâcher. Donc voilà, tout était quand même très cadré. Même si, c'est quand même un saut dans l'inconnu pour tout le monde, malgré tous les protocoles, malgré, on l'a tous vécu, et c'est vrai qu'on a parfois été cueillis un petit peu par ce qui s'est offert à nous, mais malgré tout, c'est toujours resté en contrôle. C'est aussi lié au fait que ça a été très bien ficelé en amont, et très bien organisé au départ, quoi.
Dans quel état on revient d'une aventure comme ça ? Depuis, vous êtes rentré le lundi 31, veille de rentrer au travail certainement, peut-être, rentrer à l'école pour vos enfants. Dans quel état vous remettez dans la vie normale ?
On rentre très heureux, déjà.
Un peu décalé, non ? Pas tellement ?
Ouais, pas tellement, pas énormément. On a la tête encore un peu au kili, forcément, parce qu'on a encore très souvent les émotions qui reviennent. On repense aux yeux brillants, au sommet, aux joies, aux sourires, à tous les moments qu'on a partagés ensemble. Donc on est encore un peu sur un nuage dans lequel on redescend petit à petit. Mais on pense beaucoup les uns aux autres. On s'écrit quand même presque tous les jours. Et on continue. La mission n'est pas finie. Hein. Le but, c'était de les accompagner. On les accompagne au Kili. On va continuer de les accompagner dans leur vie aussi, du mieux qu'on peut.
Donc chacun a repris sa vie à peu près normale, son sport, mais vous restez en lien et vous envisagez une autre aventure. Il y aura un Ensemble au Sommet 3 déjà, vous avez ça en tête ?
Pour l'instant, on va déjà finir ce qu'on a commencé avec Ensemble au Sommet 2. Et après, à voir. On ne s'est pas encore trop posé de questions. Rien n'est sûr, rien n'est fait. Pour l'instant, la finalité, c'est Ensemble au Sommet 2.
J'ai entendu parler d'un film. Fake news ou on va avoir un film qui va nous raconter tout ça ?
Non, en effet, c'est comme vient de le dire Johan, pour l'instant notre mission c'est de terminer déjà, de clôturer Ensemble au Sommet 2. Il y avait eu beaucoup d'attentes qui ont été générées par Ensemble au Sommet 1, et c'est vrai que ça a été une œuvre qui a été appréciée, une œuvre non enregistrée, mais qui a été uniquement diffusée à une dizaine de reprises dans des salles privées, mais qui a eu quand même beaucoup de succès. Et donc, là, l'idée, ce coup-ci, ce serait de pouvoir vraiment faire une œuvre qui serait, qui pourrait durer dans le temps et qui pourrait servir justement à des personnes qui voudraient réitérer ce genre d'aventure. Donc, on a, grâce notamment à la présence et au travail d'Andy, on a eu l'occasion de collecter de nombreuses images. Là, pour le coup, on l'avait prévu en amont, c'était dédié. Donc, on savait que peu importe l'histoire à raconter, on allait filmer, on allait montrer les échecs, mais aussi les réussites. Et je pense que pour nous tous, c'est un objectif aussi de voir à l'écran toute la préparation, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de préparations ici dans les Pyrénées qui ont été filmées. Donc on va nous voir effectivement, je pense, évoluer aussi, parce que chaque jour a été petit pas en avant, au sens propre comme au figuré. On n'est pas arrivé du jour au lendemain avec un fauteuil qui roule jusqu'au sommet. On a aussi su s'adapter jusqu'au dernier jour, je dirais même. Et ça, je pense que ça va se voir à travers les images qu'on a filmées. Et donc voilà, là l'objectif aujourd'hui, on est en plein dedans, c'est déjà retrouver avec la rentrée, la reprise de boulot, etc., pour tout le monde, retrouver notre rythme et très rapidement enclencher sur... On est sur une phase un petit peu sympathique, puisqu'on a des sollicitations médiatiques, on a des sollicitations auprès de nos partenaires, nos sponsors, on veut aussi...
Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui s'est joué, peut-être qu'a gonflé pendant que vous étiez là-bas?
Bien sûr, il y a eu un engouement, très clairement, l'engouement il a eu lieu, et on est content parce que c'est vrai que comme le message est beau, les images sont belles, beaucoup de gens aujourd'hui voient ce message message inspirant qu'on a voulu communiquer, et donc ça facilite énormément la propagation de cette belle histoire, et on espère que nous on veut continuer, on veut prolonger la vague le plus loin possible, donc ce sera à travers ce film, à travers ce genre d'émission avec vous, et continuer à partager un petit peu notre organisation, puisqu'on est vraiment dans cette optique là et je pense que le film sera en tous les cas l'aboutissement d'Ensemble au Sommet 2, avec une petite tournée dans les cinémas locaux et pourquoi pas plus, pour montrer les belles images du comment on est parti avec nos athlètes handi, ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils sont, pourquoi ils ont un jour pensé à suivre cette association, à suivre ce regroupement de bénévoles qui nous ont fait confiance jusqu'au bout, et comment on est arrivé tous ensemble au sommet. Et ça va être un gros aboutissement. Et pour ma part, je réponds à votre question entièrement. Pas de projet Ensemble au Sommet 3 pour le moment. Pourquoi ? Parce que ce projet Ensemble au Sommet 2, malgré tout le positif qu'on peut dire, ça a pesé très 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 lourd dans nos vies. Voilà, on s'est énormément investi. Mmh. C'était pour moi, à titre personnel, je peux le dire, c'était comme un job à plein temps. J'y consacrais toutes mes nuits pendant quasiment les 10 derniers mois. Donc voilà, c'est aujourd'hui, moi à titre personnel, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Le flambeau, en tous les cas, il n'est pas éteint. Il ne sera jamais, comme le dit très justement Johan, et je pense qu'Andy sera tout à fait d'accord avec ça. Le groupe qu'on a créé, je pense qu'il a, il a pas de date de fin. Donc, nous,
mais ça veut dire que s'il y avait un Ensemble au Sommet 3, il n'y aurait pas de place pour d'autres personnes. Enfin, vous avez créé quelque chose de tellement fort entre vous que rester ensemble, ou vous pourriez accueillir dans votre équipe d'autres sportifs handicapés ou pas handicapés?
Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas besoin de prolonger ou de recréer une autre dynamique. Je pense que ce groupe-là, avec ce qu'il a vécu, va faire date. Et je pense que même si on se recroise régulièrement lors d'événements, et c'est le cas, on a déjà une belle programmation pour l'année, pour la fin d'année. Je pense qu'on va, voilà, ce sera indélébile ce qu'on a créé comme lien entre nous. Mais non, évidemment, la cause du handicap, elle appartient à tout le monde. Il y a plein de personnes qui déjà dans Ensemble au Sommet 2 sont venues parce que Ensemble au Sommet 1 a existé, et donc peut-être que d'autres personnes reprendront le flambeau, des gens qui sont déjà là ou des gens qui nous rejoindront, peut-être qu'ils voudront continuer le programme. Moi, j'ai juste, qu'à titre personnel, en tous les cas, je n'ai pas
vous
forcément...
Vous allez vous reposer un petit peu.
Ouais, je vais prendre un peu de recul parce que la vie de famille et la vie professionnelle a pris un coup, donc il faut aussi un peu prendre du recul et regarder un petit peu de l'extérieur ce qu'on a réalisé. C'était chouette, mais besoin d'un peu de prendre du recul.
Vos trois héros, Gilda, Thomas et Clément, ils vont comment, eux? Dans quel état ils sont revenus? Un peu fatigués aussi, certainement. Ils ont, eux aussi, repris leur train-train quotidien?
Oui, moi j'ai des nouvelles. Comme l'a dit Johan, on est en contact permanent. Hein, c'est-à-dire que depuis qu'on est rentré, ça fait que 4 jours. Mmh. On est évidemment encore un petit peu le cœur en Tanzanie. Et même si chacun a repris...
Gilda et Clément sont repartis à l'école.
Gilda et Clément ont eu leur rentrée. Ça s'est très bien passé. Ou au lycée, voilà. Ils ont eux-mêmes un parcours avant qui est extraordinaire. Et nous, on veut les suivre, on veut les accompagner parce qu'ils ont des besoins très spécifiques. Si on parle très rapidement individuellement, Tom vient de partir dans les Vosges pour participer à un triathlon d'envergure nationale. Donc là, il est arrivé ce matin pour participer dimanche au triathlon de Gérardmer, qui est très connu. On a, du côté de Gilda, on a eu la rentrée des classes et elle prépare elle-même une opération qui va avoir eu lieu en fin d'année, donc pour améliorer sa condition aussi. Donc voilà, c'est une échéance médicale qui l'attend, même si elle continue à pratiquer le sport dans son club avec la
ici
rentrée.
À Tarbes.
Ici à Tarbes, au top. Donc, où c'est qu'elle était très très excitée de reprendre avec ses amis. Et puis pour finir, Clément qui lui a une super opportunité puisqu'il vient de rejoindre le lycée Marie Curie avec un de ses grands copains que je salue, puisque c'est un de mes grands copains aussi, c'est le petit Lou avec lequel j'ai déjà participé à des choses, qui est un grand champion de boccia. Et en fait, tous les deux sont dans une classe adaptée avec leur handicap pour pouvoir pratiquer leur sport. Et donc l'ambition de Clément et de Lou, c'est de pouvoir mêler à la fois leur handicap, leur éducation scolaire et le sport adapté. Donc c'est un beau programme pour ces trois personnes.
Peut-être pour en revenir à votre question, ils sont revenus en très bonne santé. C'était peut-être ça l'idée.
Bah, ils ne répondaient pas, donc je n'osais pas.
J'ai envie de dire, ils sont sans doute revenus changés. Parce que,
bah, vous
parce
aussi,
que eux, certes, nous aussi, et certes, on a été changés à travers eux, parce qu'on parlait du film. J'ai envie de dire, ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas de film, parce qu'il y a eu tellement de belles images là-haut, tellement de belles sensations qu'on a ressenties nous. Alors je ne sais pas si ça se traduira dans des images, mais je pense que oui, vu les premières images qu'on a pu publier, on a vu que les gens ressentaient ce que nous on avait pu ressentir, ce qui nous avait fait vibrer. Et voilà, quand on voit ces sourires-là, quand on entend ces cris, enfin, moi j'ai toujours le cri de Gilda là-haut dans les oreilles, c'est un cri qui est plein de fierté, qui est plein de bonheur. C'est rare, ce que j'ai dit à Clément, je lui ai dit que c'est rare de pouvoir être fier comme ça. Et c'est bien de pouvoir le partager, ça, parce que ces gamins-là méritent, en fait, ça. Ils méritent ça. Et puis, il y avait une part de rage aussi.
Oui.
Et il y a quand même aussi une revanche sur la vie, ouais, une revanche sur les difficultés faire, du quotidien. Ouais. Et de se dire qu'on a pu peut-être un peu les aider à ça, à évacuer quelque chose qui est de l'ordre, de quelque chose qu'ils ont peut-être jamais dit, qu'ils ont jamais crié, de l'indicible ou quoi. Ben, je me dis que ouais, peut-être que ça, ce cri-là, eh ben, s'il peut résonner un peu partout, ça sera bien, parce que je pense qu'il veut dire beaucoup et qu'il est sans doute partagé par plein de gamins et de moins gamins, de grands qui sont dans ces situations-là. Et ce qu'elle dit, Gilda, elle dit surtout ne jamais écouter la petite voix qui vous dit c'est pas possible. Mais la preuve.
Ben voilà, c'est le mot de la fin. C'est pas mal comme mot de la fin quand même. Merci beaucoup à tous les trois, Johan, Michael, Andy. La semaine prochaine, l'heure de pointe sera pilotée par le duo David Torchal à Delphine Pereira. Et puis la semaine suivante, eh bien, à votre place, Andy, ce sera Cyril Marquet pour cette heure de pointe. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.